Sois béni notre Dieu pour cette soirée et cette étude que nous allons faire maintenant ensemble autour de ta parole. Veuille nous éclairer, nous permettre de comprendre pourquoi les choses en sont arrivées là où elles en sont. Merci Jésus. Amen.
Amen.
Donc c'est la deuxième partie de cette étude qui concerne le rétablissement de toutes choses et en particulier le rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ, c'est un événement historique de l'humanité qui doit précéder la seconde venue de Jésus. Hein, vous savez, on a tous lu ça dans les Écritures, dans Actes 3, 21, où il est dit, c'est Luc qui nous dit ça, que les prophètes ont tous parlé de ça. Je lis Actes 3, 21. Je lis dans la Bible Archéo, la Nouvelle. Dieu, il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Donc Dieu a accueilli Jésus au ciel. Et cela jusqu'au moment de la restauration, ou ça dépend des versions, jusqu'au moment du rétablissement de toutes choses dont ont parlé les anciens prophètes depuis toujours. Ce rétablissement moderne, c'est le dernier acte divin créé par Dieu pour ses enfants avant le millénium. Moi, quand je me suis converti, on a dit le dernier acte divin avant le retour de Jésus avant le millénium, c'est Israël qui revient dans son pays. Ça, c'est vrai. Mais Israël étant rétabli, et comme toutes choses doivent être rétablies, l'Église doit être rétablie aussi, l'Évangile doit être rétabli, toutes choses doivent être rétablies. Et l'Église avait vraiment besoin d'être rétablie. Comme je vous le disais, les pentecôtistes, moi je me suis converti chez les pentecôtistes, ils se sont trompés en croyant qu'ils avaient reçu le plein évangile. Ils continuent à dire, nous prêchons le plein évangile. Ils ont tort, ils continuent à se tromper en cela. Dieu n'a pas fini de parler. Dieu a encore des choses à dire et Dieu a encore des choses à rétablir dans son Église qui n'ont pas encore été rétablies, dont ils ne veulent pas d'ailleurs. Ils n'en veulent pas. Mais ça les regarde. Ça a toujours été comme ça tout au long de l'histoire. Et nous sommes parvenus dans ce que la Bible appelle la plénitude des temps, ou dans cette version, les temps accomplis. Éphésiens chapitre 1, verset 10 ou 16, je ne me rappelle plus. Donc, souvenez-vous, lors de son ascension, Jésus a confié à ses apôtres, à ses envoyés, le message du salut, l'évangile, au monde entier. On trouve ça dans Marc 16, 15. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. » Est-ce qu'ils ont bien écouté? Non! Ils n'ont rien compris. Ils ont entendu que Jésus disait que c'était pour le monde entier, mais ils n'ont pas cru. Et ça, c'est toujours comme ça dans l'Église. Les gens, ils sont là, on croit qu'ils écoutent. Et puis si on fait une interrogation écrite après, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose qui a été comprise. Quand les apôtres ont pris la direction de l'Église, l'Église était toute petite, à peine un peu plus d'une centaine de personnes, hein, dans la chambre haute, ils étaient 120. Et une semaine après l'ascension, le Saint-Esprit s'est manifesté, donc le jour de la Pentecôte, et les apôtres se sont mis à enseigner avec autorité la réalité de l'existence de Jésus-Christ ressuscité. Ils l'ont annoncé d'une façon claire, nette, et 3000 personnes se sont fait baptiser pour entrer dans la communauté, c'est-à-dire pour entrer dans l'Église de Jésus-Christ. On ne baptise pas les gens pour autre chose que pour les faire entrer dans l'Église de Jésus-Christ. Tous les baptêmes qui sont faits dans les baignoires chez les pépères et chez les mémères n'ont aucune validité aux yeux de Dieu si ce n'est pas dans le but de faire entrer les gens dans l'Église. Là, je sais que maintenant, il y a plein de gens qui se permettent de baptiser dans toutes les baignoires, à gauche, à droite, et puis après les gens disparaissent dans la nature. C'est des faux baptêmes, ce sont des faux enseignants, ce sont des faux ouins qui font des choses comme ça. C'est pas juste, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Les apôtres, ils continuaient à exercer leur ministère avec puissance, avec autorité, et le résultat a été encore d'autres milliers de conversions. Mais jusque-là, l'évangile n'était donné qu'aux Juifs. Pourtant, Jésus avait dit c'était pour le monde entier. Et un jour, à Joppé, Pierre priait sur un toit, parce que là-bas, les toits, c'est des terrasses, il priait sur un toit, et là, il a appris que Dieu ne faisait exception de personne. Ah, quelle surprise! Pourtant, le jour de la Pentecôte, il avait prophétisé. Ce que vous voyez là aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est répandu et qui Dieu va le donner à tous ceux, enfin dans le monde entier, quoi. Mais quand il a prophétisé, c'était Dieu qui parle au travers de lui, mais lui, il n'avait même pas compris ce qu'il disait dans sa prophétie. C'est quand même étonnant de voir comment les gens, enfin c'est peut-être parce que c'est des Juifs, je ne sais pas, mais ils sont bouchés à l'aimerie. Et que l'évangile doit être aussi annoncé aux non-juifs. Ça, c'est dans Actes 10, 9, 48. C'est vrai que peut-être que quand on a le cou raide comme eux, on a les oreilles bouchées. Hein? Je ne sais pas. Et puis, il y a eu la conversion de Saul de Tarse, qui est devenu apôtre, l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des non-juifs. Et ça a été un événement très important dans la croissance de l'Église de Jésus-Christ. Et pendant que l'Église grandissait, on a déjà vu ça, l'apostasie, elle est entrée dans l'Église. Ça a toujours été comme ça. L'apostasie, elle vient dans l'Église. Et les années qui ont suivi la mort des apôtres, eh bien, la disparition prédite de l'Église est devenue une réalité. L'Église a véritablement disparu. Ça a été une longue nuit de ténèbres, une histoire épouvantable. Constantin, qui s'est converti sur son lit de mort, a raconté qu'il avait eu une vision, enfin bon, une croix, enfin ce qu'il voulait. Il a convoqué un concile, n'est-ce pas, à Nicée en 325, et ça a été le premier grand concile œcuménique. Pourquoi est-ce que je dis que c'était œcuménique? Parce que toutes ces églises dans l'Empire romain, depuis que les apôtres n'étaient plus là, les gens s'autoproclamaient pasteurs, s'autoproclamaient ceci, prophètes, machin. N'importe comment, il n'y avait plus l'autorité des apôtres pour transmettre, n'est-ce pas, le ministère et la prêtrise. Et alors, eh bien, toutes ces églises étaient divisées entre elles, chaque pasteur avait son petit fonds de commerce, et là, l'empereur, il a voulu unifier tout ça. Hein, l'œcuménisme, c'est pour tenter d'unifier tout ça. Le résultat, ça a été un credo qui est sorti, des délibérations de tous ces gens, n'est-ce pas, qui avaient... Alors, ce credo, en fait, et la façon dont il était approuvé, il faut lire l'histoire, c'est vraiment un exemple frappant de la façon dont l'apostasie se produit lorsque la révélation est remplacée par l'argumentation et par les décrets. Les gens décident des choses. Vous savez, comme disait Coluche... C'est dans des milieux autorisés, c'est des milieux-là, vous ne serez jamais autorisé d'y aller. Où est-ce que tu vas? Je vais dans un milieu autorisé. Ah bon, je peux venir? Non, tu n'es pas autorisé. C'est entre eux, c'est entre eux. Et puis, il est arrivé l'invasion des barbares. Les barbares, au 5e siècle, en Europe occidentale. Et il faut savoir que beaucoup de tribus germaniques, ils ne s'appelaient pas encore les Allemands, eh bien, ils avaient déjà été touchés par diverses sortes de missionnaires de tout poil, plus ou moins fidèles au véritable christianisme. Et voilà pourquoi ces tribus germaniques ont assez rapidement adopté la culture romaine et ce qui existait, l'Église d'État, le catholicisme. Et voilà que en 410, les hordes de Goths, vous avez entendu parler, les Goths, les Vandales, moi, je suis très fier parce que j'ai trois rois vandales qui s'appelaient Genton. Après, on se demande pourquoi je suis comme ça, que je mets des coups de pied dans tout. Trois Gentons qui étaient des rois vandales. Et des Huns, et alors tous ceux-là, ils ont franchi les frontières impériales et ils ont plongé l'Occident dans le chaos. Et de là sont nés plusieurs États distincts. L'Europe, ça a commencé à être divisé, c'est devenu des États, n'est-ce pas, à partir de là. Les dirigeants locaux ont alors exercé une influence sur les églises locales aux dépens de Rome. C'est-à-dire, on n'était plus tellement soumis à Rome. Et les églises diverses des pays européens, au cours qui étaient, ces pays européens étaient en cours de développement, c'était pas comme maintenant, si vous regardez les cartes, eh ben, c'est devenu le fief ou le domaine féodal, si vous voulez, des seigneurs des châteaux. C'est-à-dire que, voilà, il y avait les châtelains, comme nous, et puis il y avait les gueux, et puis et les châtelains étaient copains avec l'Église, et puis voilà, puis chacun y allait de sa petite sauce, c'était des catholiques, vous pouviez aller d'une région à une autre, le catholicisme n'était pas tout à fait le même, hein, n'est-ce pas? C'était, voilà. La culte, parce qu'il n'y avait aussi pas de moyens de communication comme il y a aujourd'hui, donc pas de moyens tellement de contrôle, mais enfin bon. La culture a donc rétrogradé, l'instruction aussi, et avec ça, ben, les mœurs aussi, évidemment. Et c'est ce que les historiens appellent l'âge des ténèbres. C'est l'âge de Jacouille la Fripouille, c'est l'âge de... Il a fallu attendre le 14e siècle, quand vous vous rendez compte, pour voir un intérêt nouveau pour la Grèce, pour Rome. Et ça a commencé à être l'épanouissement de la littérature, de la science et des arts. Et on appelle cette fameuse période la Renaissance. La Renaissance. Les gens ont commencé à rejeter les entraves du passé. Et puis, la guerre s'est enrichie d'une chose extraordinaire, la poudre à canon. C'était génial. Et puis, quelqu'un a inventé la boussole. C'était fantastique. Ça a favorisé les voyages, ça a ouvert des nouveaux horizons et des explorations maritimes. Vous voyez où je veux en venir. Et puis, le commerce s'est lancé à la conquête de l'Orient. Hein, et le continent américain a finalement été découvert. Dieu avait gardé ça. Au 15e siècle, l'impression par caractère d'imprimerie mobile a été, comment dire, perfectionnée. Et l'imprimerie a vu des horizons nouveaux. Moi, je me rappelle que quand j'étais gamin, j'allais travailler dans l'imprimerie où mon père était chauffeur. Et puis, il y avait ce qu'on appelle des rotatives. C'était ces grandes machines où les journaux étaient imprimés. Mais il y avait toutes ces personnes qui étaient en train de travailler avec des lettres de plomb. Les journaux, c'était comme ça. Et ils alignaient les mots, ils faisaient les articles sur des tablettes en bois où ils alignaient les lettres pour faire les articles, c'était en plomb. Maintenant, ça n'existe plus avec les ordinateurs. Maintenant, c'est vite fait, bien fait. Et ça sentait bon l'encre, c'était des machines magnifiques. Et le soir, eh bien, mon boulot, ça consistait à nettoyer ces magnifiques machines. C'était sale, j'étais plein d'encre. Ça t'aurait plu, toi, d'être sale comme ça, puis lui là-bas aussi. Alors, cela a eu un effet sur la naissance des universités, puisque on pouvait commencer à lire plus facilement, puisque les livres sortaient, et puis ça a aidé la dissémination de l'information. Les gens commençaient à apprendre ce qui se passe à gauche, à droite. Il y a des gens qui écrivaient des feuillets, des pamphlets, des trucs, des machins. La Renaissance a aussi été une époque de changement spirituel, c'est bien évident, c'est normal. En recherchant dans leur passé, eh bien, il y a des hommes qui ont découvert les écrits des premiers pères de l'Église. Alors, ils ont retrouvé les choses du début, du commencement, des copies, des écritures, des apôtres qui étaient en hébreu, qui étaient en grec, c'était des copies, il n'y a plus aucun original d'apôtre Paul ou de Marc ou de Luc, de Jean, mais c'est tout des copies. Mais enfin, ils ont retrouvé ces copies-là, des milliers de copies. Hein. Et bien des érudits, n'est-ce pas, de la Renaissance ont commencé à mettre ces ouvrages à la disposition du grand public. Ça, c'était magnifique. Les gens se sont aperçus de la différence énorme qu'il y avait entre leur Église et la simplicité et la beauté de l'Église primitive et de la moralité qu'il y avait au début de l'Église primitive. Et alors, il y en a qui ont dit, bon, on va vivre autrement, on va vivre avec beaucoup plus de simplicité. Alors, ils ont été dans un autre excès, ils ont voulu faire des communautés. Alors, ils ont dit, on ne va pas s'embêter avec les bonnes femmes, on va les mettre dans les couvents, les bonhommes, on va les mettre dans les monastères, ça fera moins de problèmes. Peut-être qu'ils n'avaient pas tort. Enfin, nous ici, ça va, mais on en connaît d'autres qui, vraiment, s'ils étaient dans des couvents, ça serait peut-être mieux. Donc, ils ont redécouvert des choses de l'origine et ils ont fondé des ordres religieux. Il y a eu les franciscains, il y a eu les dominicains. On a un dominicain parmi nous, là, Dominique Boissès, un dominicain. Et il y a eu aussi, bon, il y a eu les albigeois, il y a eu les vaudois, il y a eu toutes sortes de choses. Bref, la Renaissance a planté quoi? Le décor de la réforme protestante. C'était juste le décor. C'était juste le décor. Le plus célèbre des réformateurs, ça a été Martin Luther. Pas Martin Luther l'Américain, Martin Luther, un Allemand, qui est né le 10 mars 1483 à Eisleben, en Saxe. Et quand il a eu 18 ans, son père, Hans Luther, vous n'avez jamais pensé qu'il avait un père, hein? Ben, il s'appelait Hans, son père, et ben, il l'a envoyé à Erfurt pour y faire des études d'avocat. Et ça, c'est très bien parce que il a commencé, il a appris, n'est-ce pas, la rigueur de la loi, il a appris à s'exprimer, c'était très précieux pour le préparer à autre chose, n'est-ce pas? En 1505, Martin abandonne ses études de droit pour entrer au monastère des ermites des Saint-Augustins. On n'a pas de. Si, on a vu l'autre jour un Augustin. Où c'est qu'on avait un Augustin? Quelqu'un qui sait. Voilà l'ami à Élise qui s'appelle Augustin, Saint-Augustin. On a aussi un Augustin parmi nous. En 1508, il a été envoyé, donc notre ami Martin Luther, à Wittenberg, excusez-moi la façon dont je prononce ce mot, pour poursuivre des études de théologie, mais aussi pour enseigner et donner des cours sur la philosophie d'Aristote. C'était un savant, c'était un érudit, c'était quelqu'un, il était moine. Martin Luther a vite, très rapidement, déjà jeune, il a été tourmenté par le gouffre qui existait entre la doctrine et l'enseignement des Écritures et la pratique du catholicisme. Ça le troublait beaucoup. Et en 1510, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre? Il n'y avait pas d'autre église. Elles étaient interdites. Il n'y avait rien d'autre. C'était interdit. C'était couper la tête à l'époque. Hein. C'était comme aujourd'hui les. Enfin bon. En 1510, il a fait un voyage à Rome pour son ministère. Et alors là, c'était le choc total. Il était épouvanté par la corruption du clergé et il a commencé à voir sa vénération pour le pape s'effriter très gravement. Il s'est aperçu que c'était vraiment un bordel, quoi. C'était quelque chose d'épouvantable. Je vous recommande vivement de louer ou d'acheter la série de télévision, la série de films qui s'appelle Les Borgia. Ça vous donnera une idée, n'est-ce pas? Voilà comment c'était magnifique. Et voilà. Il a commencé donc à défier l'autorité du pape. Et comme il avait étudié la Bible, eh ben il était amené à la position doctrinale qui a caractérisé plus tard la réforme, ce qu'on appelle la réforme. Il a eu la révélation par les Écritures de la justification par la foi seule et non pas par les bonnes œuvres. Romains 3, 28, Paul avait écrit, donc tout au début, dans l'Église primitive, il avait écrit: Nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Et c'est ça, ça a été pour lui un choc, un choc. Ce qui a suscité le plus d'opposition directe de Luther à l'Église de Rome, c'était justement la vente des indulgences par les agents du pape Léon X, Léon X, Léon. Rien à voir avec Léon de Bruxelles. Léon X. Alors, les chrétiens, ils pouvaient pécher. Par exemple, l'adultère, ça coûtait tant. Si tu payais, ben, tu étais pardonné. Mentir, tricher, voler, ça, tu payais, tu étais pardonné. Voilà, c'est des indulgences. Moi, j'en ai vu, ça existe encore. Et puis même là, à l'heure actuelle, vous pouvez avoir des indulgences papales encore. Ça existe encore. Ça n'a pas été. Bon, ils font moins les marioles avec ça, mais ça existe encore. Et moi, j'en ai vu. Vous allez au musée du Moyen Âge à Paris, vous allez en voir. Vous allez au musée des papes Pardon? Avignon, vous envoyez, vous allez au Vatican, vous allez, il y en a dans les musées, vous pouvez en voir les indulgences avec le sceau du pape. Les chrétiens pouvaient donc pécher, être pardonnés en payant, et ce qu'ils donnaient comme argent servait à rembourser un monsieur qui s'appelait Albert de Mayence pour les frais qu'il avait dû encourir pour acquérir l'archevêché de Mayence et aussi pour achever Saint-Pierre de Rome. C'est-à-dire que tout ça, ça a eu un prix, et puis il a fallu payer, et puis les caisses de l'État pontifical du Vatican, enfin, les papes étaient vides, donc pour renflouer les caisses, ben, ils ont vendu le salut. Ils vendaient le salut. Voilà. Ils avaient trouvé une bonne idée, hein? C'est génial comme idée. Les chrétiens donc achetaient des indulgences, et ces indulgences leur accordaient la rémission des péchés. Et ça pouvait les faire aussi sortir du purgatoire. Par exemple, nous faisons le baptême à la place des morts, mais ça c'est écrit dans la Bible, le baptême à la place des morts. Mais eux, ils ont transformé cette histoire, le baptême à la place des morts, ils ont dit, non, ce qu'on peut faire, c'est payer pour que les morts sortent du purgatoire. Alors vos ancêtres, par exemple, plutôt que de passer des heures à se faire baptiser à leur place, c'était plus facile, vous donniez un petit billet, comme disait l'autre. Puis vous faisiez sortir vos morts du purgatoire. Purgatoire qui est une pure invention des catholiques. Et puis aussi la rémission complète des péchés pour tous les morts, hein. N'importe quelle mort. Vous pouviez, si vous aviez suffisamment d'argent, ben vous pouviez faire sortir du purgatoire tous les morts de votre famille, vos amis, tout le monde. C'était génial. Mais c'était pour. C'est une perversion, c'est une corruption de la doctrine de l'Église primitive. L'apôtre Paul nous parle de ceux qui se faisaient baptiser à la place des morts, il n'est pas contre. C'était une bonne chose. C'était pratiqué jusqu'au IVe siècle. Après, c'était interdit par l'Église catholique qui a remplacé ça par une affaire d'argent. Vous voyez? Alors maintenant, les évangéliques qui viennent avec leur bouche en cul de poule pour dire, mais c'est pas biblique. Étudiez l'histoire, messieurs, dames, étudiez l'histoire avant de dire n'importe quoi. La rémission complète, donc, pour les morts, avec des indulgences. Le 31 octobre 1517, Luther a cloué sur la porte de l'église de Wittenberg ses 95 thèses. Ces thèses, ce qu'il avait écrit, des articles, invitaient l'église à un débat sur l'efficacité des indulgences et des pratiques sacramentelles de l'église, hein, et les théories de Luther. Avait été écrite à l'origine, non pas pour faire une révolution, non pas pour faire une réforme, mais pour susciter une discussion entre érudits. C'était pour ça qu'il avait fait ça. Mais les masses, maintenant, ils savaient lire. Hein, ils ont lu, ils ont vu ces choses, et ils ont commencé à en parler, et ils ont vu en Luther un héros public, un homme qui osait se lever et dire la vérité, au péril de sa vie. Alors, le mouvement a dépassé le plan purement religieux et ça a vite été récupéré par les politiques, des princes, des rois d'Europe et tout. Et l'unité du Saint-Empire romain a été menacée parce que c'était le Saint-Empire romain. Le pape avait des ministres dans tous les villages. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent les autres là, avec ça? Eh bien, ils ont dit, c'est une aubaine, on fiche le pape dehors, et comme ça, maintenant, c'est nous qui avons l'autorité, les curés, on les fait taire. Vous voyez, donc c'est devenu quelque chose de politique. L'Église catholique a sommé Luther de mettre fin à son œuvre, et Luther, il a déclaré hardiment, à moins que l'on ne me convainque par des témoignages scripturaires, c'est-à-dire écrits dans la Bible, et par une raison d'évidence, car je ne crois ni au pape, ni au concile seul, il dit, et il est constant qu'ils ont erré trop souvent et se sont contredits eux-mêmes, je suis lié par les textes que j'ai apportés, qu'il a trouvés dans la Bible, ma conscience est captive des paroles de Dieu, et révoquer quoi que ce soit, je ne le puis, et je ne le veux pas. Non, mais... C'était pas un efféminé, celui-là. Hein. C'était pas un... Oh. Et il disait, car agir contre ma conscience, ce n'est pas sans danger et ça n'est pas honnête. Alors, sa conscience lui disait que les Écritures avaient raison. Si votre conscience vous dit que vous avez raison contre les Écritures, votre conscience peut vous asseoir dessus. Et comme il résistait, il a été excommunié. Et il a été mis au ban de l'Empire, ce qui faisait de lui un hors-la-loi. Et à l'époque, être un hors-la-loi, c'était très dangereux. Si bien qu'il a eu, grâce à Dieu, il a été protégé par des princes allemands qui sympathisaient avec ses idées et qui voulaient eux-mêmes une plus grande autonomie vis-à-vis de Rome. Vous comprenez bien l'histoire. Vous comprenez bien l'histoire. Ils avaient aussi un intérêt à protéger Luther. C'était toujours aussi un peu, c'était spirituel, mais aussi un petit peu politique, hein, un petit peu beaucoup. Mais quand même, tout ça, Dieu était là derrière. Et cette protection lui a permis de traduire la Bible en allemand tranquillement, dans un château. Voilà, il a bossé. On peut dire qu'il a bossé. C'est fou ce qu'un homme peut faire quand il se consacre, c'est formidable. Et ça a été d'une importance capitale, cette traduction de la Bible en allemand, parce que c'était la première traduction en langue vulgaire, c'est-à-dire en langue, parce que c'était, l'allemand c'était vulgaire par rapport au grec, à l'hébreu, au latin, n'est-ce pas ? C'était la première traduction en langue vulgaire qui n'était pas basée sur la version de Jérôme, c'était une version latine de Jérôme qu'on appelle la Vulgate, dont j'ai un exemplaire dans mon bureau, je vous l'ai montré souvent avec beaucoup de fierté puisque mon nom de famille s'y trouve. Bon, voilà, donc c'était quelque chose d'extraordinaire. Et peu à peu, de nouvelles formes de culte sont apparues et des innovations doctrinales préconisées par Luther ont été introduites dans beaucoup d'endroits en Allemagne. Et comme il était clair que l'Église catholique n'allait pas se réformer et accepter ce que Dieu rétablissait, eh bien, les disciples de Luther et Luther lui-même, ils ont fondé l'Église luthérienne, point barre. Voilà comment c'est arrivé, en gros. Hein. Il existe de très bons films là-dessus, il existe de très bons livres là-dessus. Vous pouvez aller dans n'importe quelle bonne librairie et commander l'intégrale des sermons de Luther dans la version La Pléiade. Ce sont des très beaux livres. Et vous allez voir, c'était un homme extraordinaire. Mais il avait aussi ses défauts. Il avait aussi ses défauts. Il n'était pas comme moi. Moi, j'en ai pas. Tu oses rire, mais je vais te couper la tête. Hein, toi, tu vas voir. Tout homme a ses défauts, et Luther aussi avait ses défauts, et voilà, donc il avait ses défauts, je ne suis pas là pour vous prêcher ses défauts, je suis là pour vous raconter comment les choses sont arrivées pour qu'on en arrive là où on en est aujourd'hui. Alors, il n'y a pas eu que Luther. Un siècle et demi avant, dans les années 1300, John Wycliffe, en Angleterre, dénonça la corruption et les abus de l'Église catholique. Et il a condamné le pape. Voilà, boum, condamné. Et il a traduit la Bible et il l'a diffusée donc en Angleterre, dans le peuple. Alors évidemment, il a été très sévèrement condamné par l'Église catholique, mais ses enseignements ont été très bien accueillis par ses concitoyens. Vous voyez, le peuple n'est pas si bête que ça. Il n'y a qu'en France, on élit des gens bizarres, le peuple est bizarre en France. Le roi d'Angleterre, Henri VIII, désapprouvait Luther. Il n'aimait pas du tout cette histoire, il voulait rester très catholique. Bon, il avait un problème avec sa bonne femme, il voulait divorcer, et le pape lui a refusé ça. Alors il a dit, ah bon, tu veux refuser? Eh bien, ils se sont querellés un peu, et puis à la fin, Henri VIII, il a foutu le pape dehors. Il s'est révolté contre le pape, et il a rejeté son autorité. Le pape a excommunié Henri VIII, qui s'en fichait complètement, en 1533, et Henri VIII a fondé alors l'Église d'Angleterre, qui existe toujours, dont, en quelque sorte, les rois sont les papes. C'est pourquoi la reine d'Angleterre, à l'heure actuelle, elle est la papesse de l'Église d'Angleterre, d'anglicanisme. En Suisse, il y a eu deux réformateurs principaux qui ont été Ulrich Zwingli, un bourbine, pour faire plaisir à mon petit-fils, un Suisse allemand, et Jean Calvin. Alors, ce n'était pas des saints non plus, hein, ils ont fait des trucs, ils ont brûlé Michel Servet parce qu'il ne croyait pas dans la Trinité. C'est Calvin, il n'est pas gentil du tout. Mais quand même, Zwingli a convaincu les citoyens de Zurich que la Bible devait être le seul critère de la vérité religieuse. Et sur cette base, il a donc rejeté la vie monastique, parce qu'évidemment, la vie monastique, au début, c'était parti d'un très bon sentiment, mais c'est devenu une corruption que tout le monde connaît. Hein. Le célibat des prêtres, la messe, et puis bien d'autres pratiques, donc il a rejeté tout ça. Donc, un siècle et demi avant Luther. Jean Calvin, c'était en Suisse à l'époque. Jean Calvin a été bien plus influent encore à Genève. Il a tenté de créer une ville sainte sur le modèle biblique, en quelque sorte une Jérusalem, si vous voulez. Une nouvelle Jérusalem, Sion. Il était sioniste avant l'âge, mais il voulait que ça se passe en Suisse. Voilà. Et peu à peu, le calvinisme s'est généralisé un peu partout en Suisse, mais aussi en France, en Angleterre, en Écosse, en Hollande, et aussi un petit peu en Allemagne, même avec Luther, quand même le calvinisme est rentré là. Et un nommé John Knox, un des premiers convertis au catholicisme, a raffiné et amplifié les enseignements de Calvin. Et puis, il y a eu les puritains. Vous avez souvent entendu parler des puritains, mais peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Il y a des livres qui expliquent. Maintenant, vous allez tapoter sur Internet, vous tapez puritain, vous allez voir. Il y avait les pèlerins aussi. C'était deux groupes de calvinistes strict, déjà que les calvinistes, ils étaient stricts de chez strict, mais alors là, eux, ils étaient encore plus stricts, et ils ont émigré vers le Nouveau Monde, c'est-à-dire ils sont partis aux Amériques. Et là, ils ont considérablement influencé les idées américaines, les puritains. Parmi les croyances des puritains, il y avait la souveraineté absolue de Dieu. Il y avait l'élection par la grâce. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas gracié, on est élu, prédestiné. Calvin avait déjà bien tracé la ligne. Il y avait l'idée que les membres de l'Église devaient être des instruments entre les mains de Dieu pour racheter les autres. C'était nouveau, ça. Parce que personne ne se mêlait d'aller rendre son témoignage ou de... Pas du tout. C'était que les prêtres qui parlaient de Dieu, puis les autres, ils écoutaient, puis c'était tout. Personne n'avait l'idée d'aller donner des tracts et de chanter des cantiques au coin des rues, puis de témoigner au boulot, jamais. On ne faisait pas ça. Et aussi, ils avaient l'idée que l'Église devait être une lumière sur la montagne, comme la Bible dit, pour influencer les affaires des hommes du monde. C'est-à-dire pour être vraiment la lumière du monde, pour le business, pour toutes ces choses-là. Je crois que l'œuvre de Dieu, tout ça c'était l'œuvre de Dieu, il y a eu des couacs évidemment, c'est sûr, parce que l'être humain s'y est mêlé, et je crois que l'œuvre de tous ces réformateurs a préparé le rétablissement de l'Évangile. Je le crois vraiment. C'était quelque chose qui est venu petit à petit. Alors, on dit Dieu agit dans la lenteur. Oui, mais il établit bien les bases. Il établit bien les bases. Le Seigneur a été leur protection dans cette mission. Il y avait beaucoup de dangers. Il y en a beaucoup qui sont morts. Il y en a eu beaucoup qui ont été persécutés. Beaucoup de sang a coulé. Mais le temps du rétablissement de la plénitude des temps n'était pas encore venu. L'œuvre des réformateurs, ça a été une œuvre préparatoire. C'était préparatoire. Une autre préparation importante du rétablissement de l'Évangile a été la découverte et la colonisation de l'Amérique. J'explique. Dieu avait préservé cette terre-là, d'où l'Évangile pourrait ensuite partir aux nations de la terre jusque dans les derniers jours. C'est bizarre quand on regarde l'histoire des des mouvements du Saint-Esprit. On s'aperçoit que c'est parti d'Israël, ça a fait la Méditerranée, c'est parti sur les États-Unis, et maintenant ça revient par l'Afrique pour revenir sur Israël. Ça fait le tour. Ça fait le tour. La découverte de l'Amérique a été un des facteurs les plus importants dans la réalisation du plan du Tout-Puissant. Beaucoup d'historiens actuels affirment que la plupart des pionniers colons qui sont allés en Amérique, c'était pour des raisons économiques. C'est vrai. C'est vrai. C'était pas tous des bénis oui-oui, c'était pas tous des puritains, c'est vrai. Mais beaucoup, et les historiens le reconnaissent aussi, beaucoup de colons recherchaient la liberté religieuse. Ils fuyaient ce vieux continent intolérant. Parmi eux, il y avait les puritains qui voulaient avoir la liberté religieuse et ils ont créé une puissante communauté en Nouvelle-Angleterre, ils appelaient ça la Nouvelle-Angleterre, là-bas, ce que nous appelons les États-Unis, l'Amérique. Et leur problème, c'est qu'ils croyaient qu'ils possédaient la seule bonne vraie doctrine et par conséquent, ils n'en toléraient aucune autre. Ils étaient un peu comme leurs persécuteurs, hein, c'était comme ça. Et cette intolérance, il a dû être vaincue avant que l'Église de Jésus-Christ puisse être rétablie. Certains dissidents puritains, dont un homme qui s'appelait Roger Williams, prétendaient qu'il devait y avoir une distinction claire entre l'Église et l'État. Ah ah ! Vous voyez, ça commençait à bouger. Et qu'on ne pouvait pas imposer une religion particulière aux citoyens. Vous voyez qu'il y a des dissidents qui sont bien quand même, hein, ils ne sont pas tous bêtes. Roger Williams enseignait aussi que toutes les églises s'étaient écartées de la véritable succession apostolique. Ça, il avait vu clair. Il avait vu clair. Et il a été banni du Massachusetts, hein, en 1635. Vous voyez, à l'époque, comme c'était les puritains et vu qu'ils ne toléraient pas les autres croyances, ben ils l'ont viré. Gentil chrétien. Et plus tard, avec ses amis, ils ont créé une colonie, la colonie de Rhode Island, qui tolérait absolument toutes les religions. Vous pouviez être bouddhiste, tout ce que vous voulez, adorateur du nombril, ils s'en foutaient complètement, pourvu que vous ne dérangiez pas l'ordre établi. Et il y a eu une femme, quand même le dire, du nom de Anne Hutchinson, qui s'est rendue au Massachusetts en 1634. Elle était en profond désaccord sur deux points théologiques. Un, le rôle des bonnes œuvres dans le salut, et deux, le point de savoir si une personne pouvait ou non recevoir une inspiration du Saint-Esprit. Ah! Parce qu'avant, c'était que les prêtres qui avaient la parole de Dieu, hein, les bons pasteurs, ceux qui avaient la carte. Et elle a aussi donc été bannie du Massachusetts et elle a trouvé refuge en Rhode Island en 1638. Mais il a fallu encore un siècle et demi pour qu'on parvienne à la tolérance religieuse en Nouvelle-Angleterre. Encore 150 ans. C'était long, hein? C'était long. Je vais m'arrêter là pour ce soir, pour ne pas être trop long non plus. Je vous explique ces choses pour que vous sachiez que ça n'a jamais été facile. Pour aucune personne qui voyait clair et qui voulait agir selon la volonté écrite de Dieu. Quand Dieu rétablit quelque chose, il y a toujours des opposants. Et les opposants persécutent ceux qui ont reçu quelque chose de Dieu. Ils ont tous été persécutés, ils ont tous été rejetés, obligés de fuir, plusieurs ont été assassinés, ça a été drame sur drame. Vendredi prochain, je vous raconterai comment Dieu a fait pour que l'Église, pour que l'Évangile soit rétabli. Quand je me suis converti chez les pentecôtistes, j'ignorais toutes ces histoires, je savais juste que il y avait une église entre la station de métro et l'église pentecôtiste qui s'appelait l'église apostolique. Et on nous disait surtout, s'ils vous abordent, ne les regardez pas, ne leur parlez pas, ils sont diaboliques. Ah bon ? Et j'ai appris plus tard qu'ils croyaient la même chose que les pentecôtistes, sauf qu'en plus ils croyaient dans les cinq ministères, alors que chez les pentecôtistes on croit aux pasteurs et puis aux évangélistes, un petit peu aux prophètes, mais pas trop. Mais voilà, donc bon, ils n'ont pas une très très grande différence. J'ignorais tout, je croyais ce qu'on me disait, c'était normal, j'avais 18 ans, voilà, j'étais un peu naïf, et donc je faisais bien attention de ne pas côtoyer les apostoliques. Tout ça semblait avoir été simple, n'est-ce pas, pour moi. Je me disais, voilà, le Saint-Esprit est venu au début du XXe siècle, et il a mis de l'ordre dans l'Église catholique et protestante qui était apostate, et puis maintenant, ben, il y a la vraie Église de Jésus-Christ. C'est l'Église des assemblées de Dieu. Voilà. J'étais sûr de ça et je remerciais Dieu, je louais Dieu d'être tombé dans la vraie Église, juste avec la vraie doctrine et qui possédait le plein évangile. Et je disais ça, je prêchais ça, j'étais très fier. Et puis j'ai découvert, grâce à des Américains, de Jeunesse en Mission, qu'il y avait d'autres façons d'adorer Dieu et d'autres façons de le servir, et puis d'autres croyances. Le pasteur, pour ne pas le nommer, Rachid Bouchami des Assemblées de Dieu, était un petit peu jaloux de moi parce que j'avais des miracles. Il m'avait pris pour me former au ministère pastoral à ma sortie de l'école biblique, et puis il était un peu jaloux. Donc la première occasion qu'il a eue de se débarrasser de moi, c'était de me ficher dans Jeunesse en Mission. Ah oui, là tu verras, tu vas pouvoir l'évangéliser, ça va être... Moi, j'étais tout content, donc hein, je suis parti avec Jeunesse en Mission, puis là, je me rappelle toujours, j'étais assis sur le bord, c'était l'été, j'étais assis sur le bord de la fenêtre, c'était près d'Eden Golf, en-dessus de Lausanne, leur siège à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours là qu'ils sont, et puis j'étais en train de regarder une bande d'Américains et d'Américaines qui montaient dans un bus, et il y avait une dame énorme, énorme, comme seule il y en a en Amérique, habillée d'une façon incroyable, avec des habits rouges, bleus, jaunes, verts, violets, de toutes les couleurs, les cheveux courts, très maquillés, et elle lève la tête comme ça, elle me voit, elle s'est mise à prophétiser sur ma vie, et j'étais bouleversé, n'est-ce pas, c'était une femme de cette allure-là. Et puis, même pas des assemblées de Dieu qui prophétisent sur moi. Qu'est-ce que c'est que ça? J'étais un peu choqué. C'était mon premier contact avec des non-pentecôtistes. Et ça m'a un petit peu... J'étais un peu outré, mais bon, je ne disais trop rien. Puis, je suis arrivé à Paris. Et à Paris, il y avait... C'était dans l'œuvre de Teen Challenge, dirigée par Bill Williams, qui, lui, était un pasteur assemblée de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, c'est toujours resté un ami. Il était toujours aux États-Unis, assemblée de Dieu. Et donc, il travaillait avec David Wilkerson, qui, lui, je crois, avait été viré des Assemblées de Dieu parce qu'il faisait une œuvre qui était un petit peu trop bizarre avec ses drogués, ses prostituées, ses homosexuels et tout ça dans le Bronx. Et donc là, j'ai été surpris de voir que la personne qui dirigeait le centre n'était pas un homme, mais une femme. Quelle horreur, une femme qui dirige. Hein, l'autre, il dirait que c'est une Jézabel, n'est-ce pas? Voilà, quoi. Et puis voilà. Puis j'ai vu que les femmes pouvaient être tout aussi bien remplies du Saint-Esprit que les hommes. Ça, pour moi, c'était un choc, parce que dans les assemblées de Dieu, les femmes, c'était juste bon à même pas être belles. Soit moi, c'était toi. Et puis, j'ai rencontré le frère Osborne. Là, c'était encore un grand choc pour nous, hein, Michou, quand on l'a rencontré en vrai, parce que bon, on écoutait des bandes mais quand, et on lisait des livres, mais quand on l'a rencontré en vrai, là, c'était vraiment une révélation extraordinaire. On a pu parler en tête à tête dans son bureau pendant un mois et demi. Et puis ensuite est venu William Branham. On a pu comprendre le message de William Branham, prendre ce qu'il y avait de bon, laisser ce qui était un petit peu étrange à côté, parce qu'il y a des choses quand même étranges chez William Branham, des trucs que dans Luther aussi, le réformateur. Par exemple, Luther, vous savez qu'il n'aimait pas le livre du Cantique des Cantiques. Et il s'en est fallu de peu que nous n'ayons pas le livre du Cantique des Cantiques dans nos Bibles, parce qu'il ne l'aimait pas. Il disait, c'est charnel, c'est pas de Dieu. Parce que, voilà, si vous avez lu le livre des... Ma grand-mère disait la même chose. Elle disait, ouh là là, faut pas que les jeunes lisent ce livre, c'est un peu cochon. C'est curieux, hein. Bon, enfin voilà. Donc, chacun avait sa... Tout le monde a ses défauts, hein. William Branham avait les siens. William Branham n'est pas Dieu. Il était un prophète merveilleux. Mais à chaque étape de ma vie, j'ai accepté de croire ce qui venait de Dieu, tout en mettant de côté ce qui était exagéré, et je n'ai pas agi en franc-tireur, je vous en ai toujours parlé franchement. Et voilà, puis on a vécu comme ça, et à chaque fois, ça m'a créé des problèmes, des soucis. Et maintenant, eh bien, nous sommes à la veille, de devoir quitter le château. Normalement, ce n'est pas nous qui devrions le quitter, mais les dissidents. Parce que normalement, quand on n'est pas d'accord avec son pasteur, on quitte l'église. Mais eux, c'est eux qui s'incrusent et qui nous forcent à partir. Donc nous partons parce que nous sommes des chrétiens et on ne veut pas d'histoire. Beaucoup, si vous lisez l'histoire de l'église, vous allez vous apercevoir que beaucoup de chrétiens sont partis parce que voilà, c'était trop, c'est trop. Ils ont tout laissé, ils sont partis. Ben nous, voilà, ça sera une nouvelle étape de notre vie, quelque chose d'héroïque. Et nous sommes encore une fois de plus, des pionniers dans une nouvelle histoire qu'on commence à vivre parce que des dissidents refusent d'aller vivre leur vision ailleurs et ils parasitent notre vie spirituelle. Et nous, on peut pas, on veut pas de ça. Et étant donné qu'ils n'ont pas de savoir-vivre, eh bien, nous allons vivre ailleurs. Amen. Nous allons vivre ailleurs. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est vivre ce que Dieu nous a donné. Vous vous rappelez cette brochure que j'avais sortie, Un homme, une vision. Ils sont rentrés dans notre vision en pleurant. Et puis maintenant, ils ont bousillé notre vision. Et puis nous partons. Mais nous ne pleurons pas. Nous ne pleurons pas, nous partons. Nous sommes contents de partir. Nous avons vécu 26 ans en vie communautaire ici au château. Et puis la majorité, il ne reste qu'une famille, eux là-bas, qui restent. Jusqu'à ce que ce château soit vendu. Mais comme l'ont fait nos ancêtres fidèles chrétiens, nous partons. Dieu jugera la dureté de leur cœur. Nous savons que nous avons reçu ce que nous avons reçu. Nous savons d'où nous l'avons reçu. Nous savons quelle est notre lignée. Nous savons que le Saint-Esprit nous a parlé. Il a confirmé sa parole encore dimanche passé. Alors que je prêchais quelque chose qui était quand même assez choc, ça aurait très bien pu être, ça aurait très bien pu être rejeté. Et ben non, il y a eu le Amen de Dieu et notre frère Igor a été complètement guéri. Amen, gloire à Dieu. Et il m'en a témoigné. Et nous serons fidèles jusqu'à la mort à ce que Dieu nous a confié. Et nous recevrons tout ce qu'il va encore nous donner. Nous en faisons le serment solennel. Nous recevrons tout ce que Dieu va encore nous donner. Quoi que cela puisse nous coûter, on s'en fiche de ce que ça peut nous coûter. Il y en a qui ont été jusqu'à donner leur vie. Jésus a donné sa vie. Des apôtres ont donné leur vie. Des milliers de chrétiens avant nous ont donné leur vie. Nous, on ne donne pas notre vie. On déménage. Bon, on est un peu triste parce que c'est quand même beau. Ici, on a reçu quelqu'un qui est venu pour visiter là. Il nous dit, ça ne vous fait pas un pincement au cœur de partir? On a dit, bien sûr, que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on s'en va. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, c'est comme ça. Mais à côté de ce que certains ont souffert, nous, pour nous, c'est rien du tout. Franchement, c'est rien du tout. C'est même un honneur pour nous d'être aussi rejetés à cause du rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ. Je prends ça comme un honneur. Ça sera une perle à notre couronne, quelque chose qui nous vaudra, j'en suis certain, une félicitation de la part du Seigneur. Je me réjouis. Dieu sait où il va dans toute cette histoire. Depuis le début jusqu'à la fin, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il prend son temps. Et si nous marchons avec lui, nous n'avons rien à craindre, même pas la mort. Beaucoup de nos ancêtres n'ont pas craint de mourir à cause de leur foi incomprise par les obscurantistes. Mais tout ce qui a de la valeur, ça a un prix. Et si ce que Dieu nous donne ne nous coûte rien, alors c'est que c'est de la gnognotte. Mais parce que justement ça nous coûte quelque chose et qu'on prouve qu'on est prêt à payer le prix pour rester fidèle, alors tout ça c'est à la gloire de Dieu et ça doit faire de vous des gens fiers. Fiers. Amen. Nous avons mis sur Révélation Bible un article d'un pasteur qui est décédé, que Michou a bien connu, le pasteur Kaufmann, qui était le fondateur de l'église messianique en Israël. Michou l'a vu souvent prêcher quand il venait à Paris, il allait dans l'église où Michou était, chez Guénassia. Et il dit qu'un juif qui cherche à faire la volonté de Dieu, il n'est pas honnête s'il ne va pas vivre en Israël. Parce que c'est ça que Dieu est en train de faire maintenant. Les juifs doivent aller en Israël. Et si là, eux, ils sont en train de prier pour savoir ce qu'ils doivent faire, eux, en tant que juifs, fils et filles de mères juives, c'est en Israël leur place. Voilà où ils doivent aller. Mais ils ne le feront pas. Ils ne le feront jamais. Ils resteront là comme des petits bourgeois, tranquilles, à faire leur réunion mémère. Ils ne feront jamais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour les juifs, c'est ça. C'est ce que Dieu est en train de faire en ce moment avec les juifs. Il rétablit son église et il rétablit son peuple juif. Le peuple juif, il doit être là-bas. Et s'ils ont un ministère spécial pour rester dans les nations, les dissidents là, il faut qu'ils le prouvent. Il faut qu'il y ait les signes et les miracles qui prouvent que véritablement Dieu veut qu'ils soient là. Mais pour le moment, il n'y a rien. Ils sont tous en train de se chicaner et de se diviser les uns les autres. C'est la cata. Donc nous, on voit, on regarde et on dit « Merci Seigneur, nous, nous sommes toujours ensemble, nous, nous nous aimons toujours et nous continuons d'avancer et nous savons que nous allons là où Dieu veut que nous allions, cette merveilleuse place qu'il nous a préparée. Dieu nous a ouvert une porte et il ne la fermera pas. Nous sommes fiers de payer le prix en renonçant à toutes ces choses que nous avons devant tous ces esprits obtus. Et puis nous allons là où Dieu nous a ouvert une porte. Que son nom soit béni, ne soyez pas dans le chagrin. Eric, Mélodie, Rachel, Lucas, Élise et Timothy, vous passez votre dernier vendredi ici, au château. Lundi, vous partez sur cette terre que Dieu nous a promis. Eh bien, c'est un honneur pour vous. C'est un honneur. Vous allez nous précéder. Le prochain voyage, ça sera Michou, ça sera Stéphane, Olivier, Dominique et moi. Nous partirons et nous allons vous rejoindre très bientôt. Très bientôt. Et c'est un très grand honneur. Et je vois que vous êtes fidèles dans ces choses et ça touche mon cœur de voir que je vous en ai fait voir depuis que vous me connaissez et vous continuez à marcher avec foi. Et c'est bien. Regardez les navets qui sont partis les premiers, Philippe et Marie-Claire qui sont là-bas. C'est formidable. La Bible dit que si quelqu'un veut être affermi, il faut qu'il écoute Dieu. Eh bien, nous avons écouté Dieu, la parole de Dieu, la Bible. Et puis, si vous voulez réussir, la Bible dit qu'il faut que vous écoutiez ses prophètes. Et alors, vous choisissez votre prophète. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai choisi dans ma vie les prophètes que je voulais écouter. J'ai refusé d'écouter certains hommes de Dieu qui me disaient « C'est ainsi dit le Seigneur » et je voyais que ce n'était pas vrai. Par contre, j'ai suivi ceux qui disaient « Ainsi dit le Seigneur » mais qui étaient confirmés par des signes, des prodiges et des miracles et qui avaient une bonne vie, qui sacrifiaient leur vie pour les autres. Amen. Pas qui faisaient du prêchi-prêcha seulement, mais qui sacrifiaient leur vie pour les autres. Ben ça, c'est beau. Et je vous encourage à faire de même. Éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Éprouvez-les. Éprouvez-les. Et là, je mets une épreuve, je mets encore un truc. Un vrai juif, s'il veut vraiment, il prie, il demande au Seigneur, guide-moi. C'est simple. Tu fais tes valises, tu vas à Jérusalem, tu vas habiter là-bas. Tu vas habiter dans le désert, tu vas habiter en Israël. C'est là ta place, c'est là où tu dois être. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur, j'appelle mon peuple dans mon pays. Voilà. Vous voulez écouter la parole d'un prophète? Vous en avez entendu une ce soir. Qui va l'écouter? Ben, je pense qu'ils ne l'écouteront pas. Je suis prêt à parier qu'ils n'écouteront pas, qu'ils ne le feront pas. C'est comme ça, je connais leur cœur. Merci Seigneur de bénir ces choses, de nous montrer que l'histoire n'est pas facile, mais que c'est ton histoire, c'est toi qui as écrit cette histoire. Et c'est nous qui la vivons et nous sommes fiers d'avoir été choisis pour vivre du bon côté de cette histoire et de pouvoir faire ta volonté en toute tranquillité de cœur, avec vraiment la paix, hein, parce que nous savons que c'est ta parole, c'est ton idée, c'est ta pensée, et nous sommes heureux, Seigneur, et fiers de faire partie de ton peuple qui fait ta volonté. Merci, Jésus. Amen. 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 J'ai oublié de vous raconter plein de choses encore qui sont arrivées quand on a été aussi chassé, hein, de Teen Challenge, quand on était chassé du, comment on appelle ça, de Saint-Ouen, là-bas où on avait nos réunions, quand on est, combien de fois on a dû fuir, parce qu'on était spécial. Et on nous avait, vous vous rendez compte, un pasteur nous a chassés parce qu'on priait dans la rue. Il nous a dit, la Bible dit, il n'élèvera pas sa voix au coin des rues. Et vous, vous élevez votre voix au coin des rues et vous priez, vous prêchez l'évangile au coin des rues, vous êtes antichrist. Et il nous a chassés. Il nous a chassés. C'est incroyable. C'est incroyable. Ben voilà, c'est l'intelligence des religieux. Ils se basent sur un verset biblique qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont fait aucune étude, parce qu'ils sont dirigés simplement par leur intelligence corrompue, par un mauvais esprit. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, nous ne sommes pas meilleurs que Luther, nous ne sommes pas meilleurs que Branham, nous ne sommes pas meilleurs. Non, ils avaient leurs défauts, nous avons les nôtres. Hein, Calvin, ben, c'était aussi un voyou, si on va par là. Il a quand même fait des choses. Si vous lisez l'histoire de Calvin, c'était un sacré gaillard. Hein. Il valait mieux être copain avec lui, hein, parce que si on n'était pas copain avec lui, ça chauffait. Hein. Eh bien voilà, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Personne n'est parfait. Luther était aussi antisémite. Hein, vous remarquez, des fois, il y a de quoi, mais enfin bon. Mais c'est, quand je dis antisémite, ça ne veut pas dire anti-juif. Hein, c'est antisémite, les sémites, ce n'est pas que les juifs. Hein. Eh bien, puis d'ailleurs, je suis moi-même juif, mais pas né de mère juive. C'est ce qui me dispense, n'est-ce pas, d'aller vivre en Israël. Parce que pour être un vrai juif, il faut être né de mère juive. Bon, eh bien, que Dieu soit béni. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé sur Révélation Bible et que vous avez aimé cette prédication. Maintenant, il va y avoir la suite et je vais vous expliquer comment le rétablissement de toutes choses est venu. Ça n'est pas venu comme on nous raconte dans les églises. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que c'est venu. C'est tout autre chose. Et je vais vous expliquer ça. Et vendredi, on va aller donc plus loin. Et on va voir combien de temps on va prendre, mais je vous promets, je ne vais pas vous cacher les choses, je vais vous l'expliquer, je vais vous le dire clairement. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et bonne nuit et à bientôt. Merci.